Salut Daniel, bon ben c'est Lucas et Vivien, des lycéens de Libourne à côté de Bordeaux. Voilà, c'était pour dire que depuis mardi, nous faisons des actions contre le CPE. Nous avons bloqué le lycée mardi toute la journée. Et pour des actions un peu violentes qui sont passées à l'intérieur du lycée, la proviseure a décidé de le fermer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, jeudi et vendredi, le lycée est fermé, mais ce n'est pas pour ça que la mobilisation s'arrête. Au contraire, là, nous sommes devant notre lycée, avec de la musique, et nous sommes décidés pour être du CPE, et nous envisageons de continuer la lutte jusqu'au bout. Donc voilà, un petit message de Libourne à de Vivien et Lucas. Allez, salut à toute l'équipe. Ciao les gars, bye.
Oui, c'est un petit message pour Pierre Marcel. J'avais pensé lui écrire depuis bien longtemps, puis après j'ai trouvé ça un peu cucu, quoi. Parce que c'est franchement un de mes bonheurs quotidiens. La quotidienne hein, de Pierre Marcel, c'est un de mes petits bonheurs du jour. Voilà. Et sans me faire mousser, bien que me faisant mousser, souvent nous pensons et nous écrivons la même chose. Enfin bon, nous voyons les mêmes choses. Et je l'adore. Voilà. Je me demandais qui se cachait derrière ce nom et ce prénom. Je suis ravie de cette émission, vous me faites un plaisir infini et je vous embrasse. Voilà, bisous.
Je voulais juste te saluer, Joël Aubron, soldate terroriste, puisque les terroristes gagnants les appellent résistants a posteriori, desperada d'une cause perdue. À l'époque, à la grande époque, je me suis arrêté à temps. Juste au bord du gouffre. Comme disait Brel, on suivait pas le même chemin, mais on cherchait le même port. Et aujourd'hui, déjà là, juste maintenant, juste aux infos, sur France Inter, les chiens couchants de la presse commencent à saluer ton parcours et ta courageuse détermination. Rien, jamais, ne leur pourrira la langue dans la gueule. Rien, jamais, ne nous sera épargné. C'est l'animal du Havre. Salut Mermet.
Hey, bonjour, c'est Jean-Louis de Laval. Voilà, Joël donc est morte au bout de à peine un peu plus d'un an de liberté. Elle a toujours assumé, elle a toujours cru à son idéal. Ma foi, c'est un idéal peut-être contestable dans la finalité, mais elle avait un rêve. Et puis, par contre, Maurice, lui, il se porte toujours très bien. Lui, il assume pas, il a toujours dit que c'était pas vrai. Vous voyez de qui je veux parler, il est toujours en liberté, lui. Il est toujours en liberté. Et puis voilà. Allez, au revoir.
J'avais cru comprendre que d'après Galouzeau de Villepin, Sarkozy et autres Madeleine et Chirac, la loi du marché est une bonne loi, une loi naturelle. Comme le gouvernement n'aime pas les OPA sur Suez et Arcelor, je dois rectifier. La loi du marché est sûrement une bonne loi, sauf pour les OPA. Encore là, faut-il distinguer si nous sommes les acheteurs ou les achetés. Autrement dit, si nous sommes les rapaces ou les rats. L'économie libérale se complique. Aïe, 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 bonne journée. Olivier de Haute-Savoie, immigré en Europe.
Les lycéens contestent, contestataires, lycéens, Joël Aubron, terroriste, et un peu partout dans les messages aujourd'hui de la résistance. Mais où est la résistance ? Tantôt, le résistant est un ancien terroriste. Des fois, le terroriste reste un terroriste. Aujourd'hui, on a passé une heure avec un résistant qui fut taxé de terroriste. Lui et beaucoup d'autres, durant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'appelle Maurice Criguel-Valrimont. C'est un monsieur très âgé qui, bon pied et bon œil, va nous donner une leçon. C'est un peu moche de dire ça, mais enfin, c'est quand même bel et bien ça. De résistance, du possible. L'époque est à la résignation, à l'apathie, à l'impossible, à on peut pas faire autrement, il faut se rendre à l'évidence. On va voir que dans des époques beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, des hommes, des femmes ont réussi non seulement à cette fameuse résistance, mais aussi dans la résistance elle-même, à imaginer un autre monde. Et ils l'ont en partie appliqué, ils ont en partie fondé notre société d'aujourd'hui. Et on l'a oublié, on oublie trop, on est passé dans l'époque de la victime, et on a oublié trop, je trouve, et j'espère que vous allez trouver avec nous l'esprit de la résistance. C'est notre émission d'aujourd'hui. Auparavant, des messages, d'autres messages que vous avez laissés sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Pas mal de messages, des repères, des rendez-vous, des repères. Toujours un petit peu tristounet, mais ça s'égaye au 01 56 40 37 37.
Bonjour du Pas-de-Calais, nous vous rappelons que nous avons rendez-vous au repère de Monchy-Breton entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras au café Tartous et compagnie ce jeudi 2 mars à partir de 18h. Nous nous réunirons autour de quelques encas et bien sûr avec des discussions toujours très intéressantes et qui font évoluer. Au revoir.
Dis-je, j'appelle pour faire signer sur internet là, une pétition de soutien à Denis Robert. Denis Robert, je sais pas si tout le monde s'en rappelle, c'est un écrivain, journaliste d'investigation, qui travaille donc à Libération, et auteur en particulier de Révélations, La Boîte Noire, qui vient de sortir d'ailleurs un nouveau livre. Donc à travers Révélations, il dénonçait l'affaire Clickstream, la machine à laver l'argent sale, une banque luxembourgeoise. Et donc ça serait bien que tout le monde aille signer cette pétition, parce que là il vient d'être inculpé à nouveau par la justice luxembourgeoise qui s'acharne un peu sur lui. Et je pense que ce type-là est un des derniers chevaliers blancs et il faudrait quand même l'aider à faire quelque chose. Et c'est la moindre des choses que d'aller signer cette pétition. Ça ne prend pas beaucoup de temps, hein, ça c'est gratuit, ça ne coûte rien à faire. Il suffit de taper son nom sur Internet. Denis Robert, j'espère que vous le ferez tous. Et surtout, parlez-en autour de vous, parce que des gens comme ça, il n'y en a plus trop et ils deviennent de plus en plus rares. Donc il faut les soutenir, parce que lui, il risque gros à nouveau. Il risque de la prison et des amendes. Donc voilà, merci Daniel. Allez, à plus.
Salut à toutes et salut à tous. Avis aux amis de là-bas, si j'y suis. Le prochain repère du bar du château, chez Tino pour les intimes, à La Pradelle puis Lorenz, dans l'Aude, aura lieu demain, vendredi 3 mars, à partir de 18h30. Qu'on se le dise. Ciao et venez nombreux. C'était Patrice dans les Pyrénées-Audoises.
Mercredi, moment fort au repère des amis de là-bas si j'y suis, de Limoges. Moment d'intense émotion avec ce témoignage sur le quotidien des sans-papiers, de ceux qu'on croise tous les jours, sans rien savoir ou si peu de leur détresse, de leur solitude, de leur peur. Voix qui s'étrangle, malaise, silence. Désormais, pour les quelques 30 que nous sommes à avoir écouté ces histoires si douloureuses, les sans-papiers ne seront plus un simple mot, lu ou entendu dans les médias. Ils auront une voix, un regard. Et il faudra un peu de temps pour que la parole, libérée du poids de l'émotion, reprenne ses droits. Il y a déjà 3 heures que l'on est ensemble. Discussion jusqu'à plus soif. Derniers carrés d'irréductibles qui ont du mal à se quitter, à repartir chacun dans sa nuit, tant ces moments volés à un quotidien souvent morose sont nécessaires.
Nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste, sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques relevant non d'une doctrine politique mais de l'aventurisme dont ont toujours fait preuve malgré leurs protestations les dirigeants du Parti communiste auxquels on accola faussement le nom de Français.
Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement avec son bon sens et son expérience habituelle le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Déjà dans une série de réunions et de conférences, nous avons mis sous les yeux d'une foule attentive des documents irréfutables. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec François Ruffin et Maurice Grigel-Balrimont.
Flight number 2, arriving from New York.
On prononce Criégel-Valrimont, c'est bien ça, ou Criégel-Valrimont?
On prononce Maurice Criégel-Valrimont pour marquer que en 18, l'Alsace a cessé d'être germanisée. Mes premiers mots de français, c'est en 1918, quand les troupes françaises à Strasbourg, nous sommes des meutes de gosses de 4 à 8 ans, et nous nous précipitons vers les poilus qui arrivent, et ce sont nos quatre premiers mots de français que nous prononçons tous ensemble. Bonjour papa, salut poilu, ou salut poilu, bonjour papa. Tous les gosses qui sont là, on leur a dit que leur père était soldat. Et ce sont mes premiers mots de français en 1918.
Oui, vous avez bien compté. 92 ans, Maurice Criégel Valrimont. Et bon pied, et bon œil, et rire, et surtout une jubilation à vivre, une jubilation à lutter encore et toujours, et une vie exemplaire, une vie comme on aimerait en avoir eu une. Résistant, Maurice Criégel Valrimont est une des grandes figures de la résistance, comme il vient de le dire. Il est né en 1914 en Alsace. Très jeune, il s'engage à lutter contre le fascisme à l'époque, en 1934, il a 20 ans, et le fascisme rôde en France. Le fascisme s'approche, comme il est déjà installé en Allemagne, en Italie, comme il viendra en Espagne un peu plus tard. En 1934, il est tout près, il est parmi nous. Et puis il y aura ce renversement, 1936, le Front Populaire et Maurice Criégel Valrimont, qui ne s'appelle pas encore Valrimont, vous allez voir pourquoi, est aux premières lignes, vibre, participe, s'engage dans le syndicalisme de l'assurance. Il est représentant syndical de la CGT Assurance. Et puis 39, 40, la débâcle. Et puis, comment va-t-il s'engager? Comment va-t-il devenir une des figures de la résistance, compagnon de route du Parti communiste, dont il se détachera par la suite en 1961. Il est surtout une des figures qui a participé au CNR, au Conseil National de la Résistance, qui, au cœur même de la guerre, au creux du désespoir même, eh bien, a été un fabuleux sursaut où les Français, de gauche, de droite, tous ceux qui voulaient que la France fût débarrassée du fascisme, ont imaginé plus loin que le combat une autre France. Et ils ont imaginez véritablement une autre politique. Ils ont fondé un certain nombre d'institutions dont nous jouissons toujours aujourd'hui, comme la sécurité sociale, les retraites, un certain nombre de droits qui, s'ils ont été en partie repris dans les années qui ont suivi, ont fondé notre France, notre République, la 4e comme la 5e République. Aujourd'hui, ces formidables acquis, cet héritage né de ces luttes est compromis, repris peu à peu, et c'est dire la nécessité d'entendre une voix comme celle de Maurice Criégel Valrimont. Et puis une autre voix qu'on va entendre, celle de la femme qui a écrit le chant des partisans. Elle est morte il y a très peu de temps. Elle s'appelait Anna Marly, et évidemment cette heure lui est dédiée.
Français, quiconque parmi vous, fonctionnaires, militaires ou simples citoyens, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipiteriez la patrie dans les pires malheurs.
ici la France. Ici la France.
La levée des couleurs, un drapeau, il y en a de plus grand. Un mât, il y en a de plus haut. Mais ce mât, c'est une branche coupée vivante au tronc d'un arbre des sommets. Et parce que ce mât tordu est un prolongement de la terre, ce n'est plus un drapeau qu'il porte, mais le drapeau. Les scènes que nous voyons ont été tournées par les jeunes gens du maquis, en plein cœur du royaume de la Gestapo. Qu'elles aient traversé les 20 polices qu'entretiennent Himmler et Darnan sur notre territoire est en soi seul un miracle de courage et d'audace. L'autre miracle, c'est que malgré les 20 polices et les troupes allemandes qui battent de leurs bottes nos villages, nos champs, nos chemins, les jeunes gens de France, chaque jour, montent vers le maquis, volontaires, toujours plus nombreux pour une vie toujours plus rude, par
Maurice
un,
Schumann.
Par deux, par trois, ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers. L'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. La résistance française avait déjà ses journaux comme elle avait ses héros, elle avait ses livres comme elle avait ses martyrs, elle a dit j'aurai mes films et elle les a eus. Et grâce à elle, vous les voyez, tous, armées secrètes, francs-tireurs et partisans, corps francs des mouvements unis de résistance, organisation de résistance de l'armée, maquis, tous forment les forces françaises de l'intérieur.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de l'abîme, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Tristesse au Bangladesh, comme un cliché sous bois, c'est la soumission. C'est la soumission à la domination. La tristesse, c'est quand le dominé accepte et même collabore à son propre asservissement. La tristesse, c'est quand on entend la certitude de l'inéluctable. La tristesse, c'est la voix qu'on vient d'entendre, celle de Philippe Pétain, qui incite à la soumission, à la collaboration. Mais il y a aussi l'autre voix qu'on vient d'entendre, là, c'était celle de Maurice Schumann, qui incitait, qui invitait, qui encourageait à la résistance. Évidemment, du courage, il en fallait. Tant ceux qui étaient enclins à résister, français de toute sensibilité, devaient braver l'insulte d'être des terroristes, des traîtres. Les choses étaient aiguës, les choses étaient féroces. La situation était extrêmement désespérante et violente et espérante aussi pour certains. Et malgré cela, il y a maintenant 62 ans, le 15 mars 1944, le Conseil national de la résistance publiait un programme qui aujourd'hui ferait de ses auteurs des gauchistes allumés, cinglés, tant leurs prétentions semblerait aujourd'hui irréaliste. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours, le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Je prends quelques éléments de ce texte qui n'était pas seulement des idées des communistes engagés dans la résistance, mais aussi bien des gaullistes, puisque c'est ce Conseil national de la résistance et ses textes avaient été dirigés tout d'abord par Jean Moulin. Beaucoup d'hommes et de femmes ont participé à cette aventure intellectuelle, politique, humaine, remarquable. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir encore des voix parmi nous de ceux qui ont participé, qui se sont engagés, dont Maurice Criégel-Valrimont, que François Ruffin a rencontré pour nous.
Je voudrais savoir, avant d'entrer dans la résistance, peut-être même avant la guerre, qui était Maurice Criégel-Valrimont ?
Vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce que, en ce qui me concerne, je ne suis pas devenu résistant, je n'ai jamais cessé d'être résistant. Et en fait, étant né à Strasbourg en 1914... Quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, nous allions traverser le Rhin à la nage. C'est-à-dire que c'est la porte à côté. Et nous savons ce qui se passe là-bas. Là-bas, il y a des affrontements déjà. Les gens se battent dans les rues, avec des armes dans certaines occasions, qui sont le signe annonciateur de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et même avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, en tant qu'étudiant en droit à l'époque, j'étais un jeune antifasciste. Certains de mes professeurs auraient voulu que je fasse une agrégation en droit. Je suis lauréat de la faculté de droit de Strasbourg. Mais moi, j'étais un étudiant relativement avancé et je voulais changer le monde. Alors tout ce qui ne comportait pas cela comme choix essentiel, je n'étais pas d'accord.
Donc vous avez renoncé à faire carrière d'avocat ou
absolument, d'agrégation. Dans toute ma famille et dans mon entourage universitaire.
Et vous avez fait quel choix alors à ce moment-là ?
J'ai fait le choix de vouloir changer le monde à moi tout seul.
Peut-être pas tout seul quand même.
Exactement, vous avez tout à fait raison. Non, mais j'ai fait le choix, comme c'est le cas des jeunes un peu ardents, de vouloir participer à des grandes choses. Alors, la vérité, c'est que pour faire ce choix, j'étais en opposition avec mon milieu. J'ai quitté Strasbourg, je suis allé au printemps de 1936. J'ai choisi mon moment, je suis allé à Paris, où il y avait quelques-uns des étudiants que j'avais connus à Strasbourg. Et là, comme je ne voulais pas qu'on m'aide, je voulais être indépendant, je choisissais entre acheter de quoi manger et acheter des timbres pour faire des offres d'emploi. Et mes derniers sous sont allés dans les timbres pour écrire dans les contentieux de banques et d'assurances pour trouver du travail. Et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé du travail un tout petit peu avant mai 36. Et c'est comme ça que je suis devenu employé d'assurance. Et où un jour, mon chef de service m'offre une promotion qui consiste à doubler mon salaire. Et puis je me mets à rire et je lui demande s'il sait qu'on a voté pour que je sois secrétaire général de mon syndicat 8 jours avant. Alors il se marre aussi, il rit aussi, et la conversation s'arrête évidemment là. Mais c'est pas ça qui est important. C'est que très peu de temps après ça, je suis licencié pour insuffisance professionnelle. En 40, je suis mobilisé, et vu l'exode, j'ai vu en Auvergne, j'ai vu des paysans qui vendaient de l'eau pour les bébés. Ça m'a foutu, je les aurais tués. C'était terrible, la situation était terrible. C'était tout à coup, notre France, c'était misérable. Vous allez maintenant me demander pourquoi j'interviens, pourquoi je fais quelque chose.
Voilà. C'est comment devient-on résistant à ce moment-là?
Tout ce que je vis à ce moment-là, pour le jeune homme que je suis, un peu exalté, d'abord un pays occupé, quand on vous dit « vous êtes un pays libre », ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand il n'est plus libre, ça veut dire quelque chose. C'est terrible, terrible. Tout est terrible. Vous descendez les Champs-Élysées et tout à coup, vous avez une musique militaire allemande à côté de vous et vous êtes obligé de vous ranger. Rien que ça. Vous voulez les assassiner, vous voulez les tuer, vous voulez les supprimer, et c'est eux qui défilent. Et tout est comme ça. Vous avez une image de votre pays, vous avez vécu les Lumières, vous avez aimé les exaltations de la liberté, même ses excès. À cette époque, je n'ai pas encore été communiste du tout. Mais je connaissais les hommes. C'était des braves types. Ils avaient raison, ils avaient tort, mais c'était des hommes entièrement dévoués aux autres. Et on les fout en tôle. Je peux pas accepter ça. Quand tout est à refuser, il faut dire non. C'est vrai que vous savez que de vous engager, ça comporte des risques. Mais il y a un moment où ne plus être un homme, c'est pire que de mourir. La question vient normalement, on dit, mais c'était une petite minorité au début. Ce que ça veut dire. Quand vous prenez les années 40-41, vous avez militairement, les gens plantent des petits drapeaux sur les planisphères ou sur les maps monde. Les Allemands vont jusqu'au fin fond de la Russie. Même les Italiens occupent l'Afrique. Les Japonais occupent pratiquement toute l'Asie, etc. Les autres avancent partout. Alors vous allez dire à votre voisin, va sur les Champs-Élysées, détruire la formation allemande, ça n'a aucun sens. Donc ne dites pas, il y en a peu. Dites ce qui est vrai. Il y en a quand même et tout de suite. C'est ça la réalité.
Grenoble, où sévit le terrorisme, a été le théâtre d'un grave attentat. La poudrerie de la ville a sauté. Des morts, des blessés, 2000 sinistrés, tout un quartier détruit ou gravement endommagé. Le sang français coule à nouveau, mais cette fois versé par d'autres Français.
Les terroristes, c'était eux. Le terroriste, c'était lui. C'est l'homme que nous écoutons aujourd'hui. Maurice Crégel Valrimont, 92 ans, qui devait faire face, était en but, lui et d'autres. Jeune français de l'époque à la propagande gouvernementale dont on vient d'entendre un petit extrait. Comment devient-on résistant? Comment va-t-on vers la résistance? Comment s'engraine cet engagement?
Vous avez ce sentiment d'exaspération quand il y a les Allemands sur les Champs-Élysées. Vous avez cette colère continuelle contre cette occupation. Mais comment va se traduire votre premier acte de résistance, votre entrée en résistance?
C'est un continuum. La vérité, d'une façon ou d'une autre, compte tenu que j'ai des rapports militants avec beaucoup de gens, j'ai une expérience syndicale et politique. Je ne me perce pas d'illusions. Il ne suffit pas que les gens me disent qu'ils sont contre les Allemands pour que je considère que je suis organisé avec eux.
Finalement, avant la guerre, vous étiez dans un tissu syndical et un tissu politique. Ce que vous dites, c'est que ce tissu syndical et ce tissu politique, pendant la guerre, il était, dès l'occupation, il était plus ou moins disponible pour collectivement former un noyau de résistance.
C'est absolument vrai. Ce que vous dites est très important, très rapide. Une partie des gens qui avaient déjà une activité, sous une forme ou sous une autre, la poursuivent. Ils se regroupent, ils se rencontrent, ils parlent, ils commencent à faire quelques petits tracts, etc. Mais ça se reconstitue. Ma femme, celle que vous avez vue à l'entrée, avant la guerre, elle était dans les organisations naturistes, etc., qui vont... Et c'est là qu'il y avait des hommes comme Fabien. Mais ils étaient déjà à ce moment-là, ils étaient en rapport. Alors, ce sont des rapports multiformes.
Votre activité en tant que résistant, elle consiste à diffuser des tracts, des journaux, et à organiser plus ou moins une armée, au moins une armée de réserve, une armée de libération.
Des noyaux. Moi, par exemple, je passais mon temps dans les trains de nuit parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Debout. Et j'allais dans toutes les villes de zone sud pour regrouper des éléments capables de diriger les forces militaires. C'était un peu aventureux déjà. Enfin, on le faisait. Partout, nous arrivons sans difficulté majeure à constituer des états-majors militaires avec des gens ou bien capables ou bien se formant. Mais enfin, nous le faisons. Les Allemands sont en grande difficulté. Et ils instituent le service du travail obligatoire. Le service de travail obligatoire a été le plus formidable moyen de recrutement de la résistance que nous ayons jamais eu. Jusque-là, une partie de la population, quand on leur disait « ce sont des exaltés, ce sont des cinglés, ce sont des terroristes, ils font leur coup et puis ensuite ils font tuer les gens comme otages », ne les suivait pas. Une partie des gens était impressionnée. Quand on leur a dit « Vos gosses, on va les envoyer dans les usines dont tout le monde savait qu'elles étaient bombardées en Allemagne et on y envoie vos gosses, vous ne les verrez plus et on vous les renverra comme cadavres », et que s'est-il passé? Nous ne sommes pas restés inertes. Nous avons dit aux gens « Ne donnez pas les gosses ». Et nous vous aiderons à les planquer. Et nous n'avons pas simplement dit nous aiderons à les planquer, nous avons organisé le moyen de les soustraire. Nous avons saboté les centres de recrutement, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous avons organisé une industrie du faux papier par centaines de milliers. Parce que le moins que l'on puisse dire de ces enfants, le moins que l'on puisse dire de ces jeunes gens, c'est qu'ils devenaient une armée de réserve. Mais tout de suite, et disponible et capable d'agir. C'est énorme. Alors, là, vous avez une illustration de ce phénomène qui montre que la division en petits collabos, en petits résistants et en masse inerte, ça n'a pas de sens. Ça ne correspond absolument pas à l'histoire. C'est pas comme ça que ça s'est joué.
Les jeunes travailleurs restant en France ont été placés dans des centres d'application accélérés où ils vont devenir, après un stage de quelques mois, de parfaits ajusteurs ou tourneurs. Ces jeunes pourront être incorporés en France dans des centres industriels ou agricoles aussitôt après la remise du diplôme officiel. Les jeunes gens partis faire leur service du travail ont chaque semaine plusieurs heures de cours qui vont leur permettre, la pratique aidant, d'apprendre rapidement la langue allemande. Le travail dans les ateliers d'apprentissage sous la conduite de contremaîtres expérimentés.
Simplement, là, il y a un moment où il y a quelque chose que je voudrais comprendre, c'est qu'on est dans une lutte de libération, on est dans une lutte de libération nationale, et à un moment, il y a un programme qui surgit, le programme du Conseil national de la résistance, et qui là n'est plus seulement un programme pour dire nous allons bouter les Allemands hors de France, mais aussi on va instaurer un certain nombre de mesures politiques, de mesures sociales, quand le territoire sera libéré. Alors, comment ça se fait qu'on passe d'une lutte de libération nationale, avec toutes les tendances politiques, à la limite, on pourrait dire à ce moment-là, à une lutte qui va avoir un contenu politique, un contenu social assez important?
Le seul point sur lequel je fais une toute petite réserve, c'est de dire on passe. La vérité, c'est une évolution normale. Les forces institutionnelles manquent à leur mission. Elles cessent d'être les forces dirigeantes. Elles ne dirigent plus rien. C'est ça la donnée réelle. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour l'armée. Mais tout le reste est à l'avenant. Cette très respectable magistrature qui, à l'époque, a une image quasi religieuse. Est-ce que vous savez combien de magistrats ont refusé de prêter serment à Pétain ? Un seul, dans toute la France. Bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La haute administration, les églises, les forces économiques, c'est épouvantable. L'organisation des comités économiques, c'est directement au service des Allemands. Et tout est à l'avenant. C'est pour ça que je vous dis, on ne passe pas. On n'a rien à passer. Ils sont pas là. En même temps, il y a déjà, et il ne faut pas le voiler, la résistance dans son ensemble. C'est pas une idylle dans un pré vert avec des pommes rouges et des lunes brillantes. Ce sont des tendances différentes. C'est la France dans sa différence. Et cette différence, il ne faut pas la camoufler. Je ne veux prendre qu'un exemple. Au comité d'action militaire, le militant syndical que je suis rencontre un homme des 200 familles. C'est Jean de Vogué. C'est un homme des 200 familles. C'est l'industrie sucrière. Il est propriétaire du château de Vaux-le-Vicomte. Il est officier supérieur de la Royale. Dans le jargon de l'époque, c'est un ennemi de classe. Mais de quoi lui et moi nous nous apercevons ? C'est que, dans la mesure où nous voulons la libération du territoire, nous nous rejoignons.
Mais justement, ce qui est surprenant là, dans ce programme du Conseil national de la résistance, c'est qu'on ne se limite pas à la libération du territoire, mais il va y avoir une volonté d'avancée sociale. Et là, on se dit, si vraiment il y avait des gens des 200 familles...
Mais ils y sont.
Si, à l'intérieur de la résistance, comment ça se fait qu'on a un programme qui est fort à gauche?
Mais ça signifie une chose toute simple. Un certain nombre d'hommes, y compris d'origines sociales diverses, prennent conscience de ce qui est majeur du point de vue de l'intérêt national. Patriote, ça veut dire quelque chose. Et je ne revendique pas d'être moi tout seul un patriote. Je ne conteste pas qu'à ce moment-là, De Vogüé est un patriote. Eh oui, mais ça c'est l'histoire. Quand l'histoire grandit, les hommes grandissent avec. c'est beau à voir. Et c'est beau à voir. D'ailleurs, vous savez bien à quelle vitesse ensuite on revient en arrière. À toute allure. Et en y mettant la cravache.
Pour la première fois, le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris. Monsieur Saillant, secrétaire de la CGT, président du CNR.
Je voudrais que dans les pays alliés, les hommes d'État nous entendent et nous comprennent, nous, de la résistance française. Nous ressentons au CNR douloureusement l'injustice qui est faite à notre pays lorsqu'on refuse de reconnaître le gouvernement actuel de la France.
Monsieur Dasquier, du Mouvement de Libération Nationale.
Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice. Que les biens des collaborateurs, des puissants seigneurs des banques et des trusts qui ont trahi, soient confisqués, soient saisis, parce que c'est la justice.
Monsieur Tessier, des syndicats chrétiens.
Le syndicalisme chrétien avait préconisé l'instauration de la démocratie économique par l'établissement à tous les degrés de conseils, comités ou commissions paritaires.
Monsieur Gillot du Parti communiste.
Pour que la France soit libérée, il faut qu'il n'y ait plus sur le sol de la patrie ni un Boche, ni un prêtre.
Voilà, Conseil national de la résistance en mars 1944, avec ce texte que j'évoquais tout à l'heure, qui a été notamment les lignes où on a pu lire la création de la sécurité sociale, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d'atelier, etc., etc. Eh bien, voilà, on est avec un de ceux qui a vécu cette page d'histoire, et qui n'est pas une histoire abolie, qui est simplement une histoire trop oubliée et un héritage en grande partie dilapidé. Maurice Krigel, Val Raymond, avec François Ruffin.
Aujourd'hui, quand on veut revenir quand il s'agit de dire qu'on va revenir sur des acquis sociaux, on ne dit pas qu'on va détruire les acquis sociaux, on dit qu'on va faire une réforme, que la réforme va être là pour sauver le système, et que le système est en péril. Parce que il y a soit des déficits publics, il y a des déficits commerciaux, il y a un trou dans la caisse de la Sécu, et tout ça se chiffre, est chiffré à chaque fois par les ministères, en millions ou en milliards d'euros. Moi, ce qui me paraît assez surprenant, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez contribué à mettre un système de retraite en place à la Libération. À la Libération, il y a eu la sécurité sociale qui a été mise en place, les retraites. Et tout ça se fait dans un contexte où, là, les déficits publics, c'est même plus la peine d'en parler. J'avais relevé un petit extrait de la situation de la France au moment où vous prenez ces mesures. Donc, on nous dit, en 1944, la France est à genoux. 74 départements ont servi de champ de bataille. La production industrielle ne représente que 29% du niveau de 1929. Les recettes fiscales couvrent à peine 30% des dépenses publiques. La dette nationale a quadruplé. Une foison de billets pourchasse une pénurie de produits. Et donc c'est dans ce contexte-là que vous êtes complètement inconscient, vous voulez mettre encore plus la France à genoux. C'est dans ce contexte-là que vous décidez qu'il faut mettre en place une sécurité sociale et des retraites. Mais on a dû penser que...
Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire qu'à l'époque, il n'y ait pas des gens qui nous ont dit ce que vous venez de dire. Ils ont dit « Vous êtes fous, la France... » C'est bien pire que ça. La France n'avait plus de ponts. La France n'avait plus de charbon. La France n'avait plus d'acier. La France n'avait plus d'énergie. Bien, c'est vrai que c'était à peine concevable. Bien, nous sommes passés outre, tout bonnement. Nous sommes passés outre et nous avons fait les choses. Alors là, la preuve a été faite. L'investissement social est un investissement économique formidable. Et c'est vrai, je n'ai aucune hésitation à le dire, les 30 glorieuses n'auraient pas été possibles si nous n'avions pas fait cette législation sociale. Historiquement, la chose est démontrée, on pouvait discuter avant, mais historiquement, on ne peut plus en discuter. C'est grâce à la législation sociale que les progrès ont été accomplis. Ça veut dire tout simplement une chose d'une simplicité puérile. Les gens qui vivent sur le dos des autres, les gens qui bénéficient du travail des autres, les gens qui exploitent les autres, ils n'ont pas de scrupules. Ils sont capables de charité. Mais le fond de leur attitude, le fond de leur attitude est de croire que pour vivre, pour que l'humanité fonctionne, il faut qu'il y en ait qui profitent et d'autres qui subissent.
Mais donc vous vous dites, aujourd'hui où on vient de nous dire que le poids de la dette publique française, selon les nouvelles normes internationales, a doublé, vous vous dites, c'est pas une raison pour ne pas conquérir de nouveaux droits sociaux ?
Je dis plus que ça. Je dis que, dans toute une série de domaines, le fait de donner, de garantir ces droits sociaux résout le problème posé. Je dis que si on passe de 7 millions de gens qui sont hors le circuit du travail, ce qui est le cas, si on passe simplement à 2 millions de gens, le problème est résolu.
Le mouvement unifié de la Renaissance a tenu à Paris un grand meeting pour l'élection d'une assemblée souveraine, une constitution démocratique et l'application du programme du CNR. Diverses tendances des mouvements de résistance sont ici représentées par messieurs Jacques Kayser, Pascal Coppeau, le révérend Père Philippe, Pierre Villon, Riegel Valrimont et Emmanuel d'Astier.
J'ai 30 ans, là, c'est à peu près c'est l'âge que vous aviez à la Libération.
Exactement.
Le climat qui est le climat d'aujourd'hui, c'est un climat de résignation.
Je vais prendre deux moments. En 1934, la France a l'air dans une situation pré-fasciste. Et les fascistes se manifestent et essaient de prendre le pouvoir. Il y a des forces dans l'armée qui sont candidats, il y a la cagoule, etc. C'est sérieux. Et dans l'ensemble, l'état d'esprit n'est pas meilleur qu'aujourd'hui. Ça, c'est 1934. En février 1934, c'est la première grande manifestation où se rassemblent les forces syndicales et où ils vont dans l'autre sens. Et en 1936, c'est le Front populaire. En 2 ans. Non seulement vous avez un recul du fascisme, mais d'une certaine manière, en France, le fascisme est battu. En 2 ans. Si en 34, quelqu'un vous avait dit que 2 ans après, la France, ce serait le Front populaire, on vous aurait rionné. J'imagine, là, j'ai vu quelques-uns de mes gars de l'époque, de mes militants syndicaux, je les ai vus rire. Ils n'auraient pas cru. Ils n'auraient pas cru. Mais ça, c'est rien du tout. En 42, Stalingrad est à portée de la conquête des Allemands. C'est-à-dire, c'est fini. Le monde est sous la botte fasciste en 42. Et en août 44, Paris est libéré. Là, j'ai imaginé, nous avons été dans la même cellule avec Aubrac, avec Rabanel à Lyon, et si l'un de nous une nuit s'était réveillé, vous savez, on n'avait que des matelas et on était trop nombreux pour pouvoir coucher sur le dos. Il fallait être couché sur le côté. S'il y en avait un qui changeait de position, il fallait que tout le monde change de position. Bien. Si l'un de nous avait dit que 2 ans après Paris serait libéré, les autres auraient passé le reste de la nuit à rigoler. C'était invraisemblable. Et c'est 2 ans. C'est ça ma réponse.
Mais c'est comme s'il y avait aujourd'hui un sentiment d'auto-paralysie de chacun. Qu'on s'auto-convainquait que c'est pas possible. Alors que finalement, Il n'y a pas les Allemands en face. Mais c'est comme si on...
Je suis pleinement d'accord avec vous. Et moi, de ce point de vue-là, d'abord, ma certitude, ça, c'est une évidence. Si vous prenez même les deux, trois dernières années, vous avez connu, il y a quelques années, comme ça, une espèce de morosité insupportable. On s'emmerdait, excusez-moi. Mais c'est vrai. Les choses sont devenues plus intéressantes. Il se passe tout le temps quelque chose qui mérite examen, qui mérite qu'on en discute, qui mérite qu'on en parle. On ne s'ennuie plus autant. Et c'est le signe que largement, il y a des tas de gens qui posent des bonnes questions. Ce qui manque encore, c'est les bonnes réponses. Mais les bonnes questions sont très souvent posées. Alors, moi, j'ai du mal à le dire, mais il faut attendre un peu, mais pas trop, parce que c'est un peu tard pour moi.
Vous voulez dire que vous êtes pressé d'assister à ce printemps-là ?
Quand j'étais jeune député, le père Cachin était... il avait 80 ans, c'est-à-dire que maintenant, ce serait un jeune homme pour moi. Mais à l'époque, c'était un très vieux monsieur. Et alors, nous étions quelques jeunes intellectuels comme ça, et ça lui plaisait de retrouver sa propre jeunesse.
Marcel Cachin, c'est ça ?
Marcel Cachin, le dirigeant communiste. Et alors, de temps en temps, il nous prenait par le bras comme ça. Il disait, il faut y aller, il faut vous dépêcher. Moi, je veux le voir, le socialisme. Et nous, on trouvait que c'était bien.
Voilà, merci à Maurice Criégel Valrimont, par appel, né en 1914. À lire de Maurice Criégel Valrimont, des entretiens réalisés avec Olivier Biffaut aux éditions Odile Jacob. C'était un reportage entretien de François Ruffin. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission La Basse et J'y suis. Technique aujourd'hui, Sophie Morino et Patrick Henry. C'est Antoine Chaoué et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Assistée de Pascal Le, Pascariello et de Christophe Imbert au répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Un petit coup de swing et puis la réclame quand vous voulez, monsieur. Ciao.